c'est tellement mieux.
Ah, 10h01 minute. Je suis rempli de nostalgie. Je sais pas si vous autres vous l'êtes, mais je vois des photos de jeunes enfants qui retournent à l'école. Des moins jeunes qui s'en vont au secondaire. Des encore moins jeunes qui commencent le cégep. L'université, c'est un petit peu plus tard, mais je suis nostalgique par rapport à ce temps-là.
Que tu penses à la rentrée, mettons, primaire, secondaire? As-tu un souvenir franc qui te vient en tête?
Moi, c'est bizarre. C'est surtout des moments très particuliers ou des odeurs. Tu sais, la première fois que je remets les pieds à l'école secondaire, c'est l'odeur. À chaque fois que j'ouvrais la porte, ça sentait la cafétéria.
Oui. Non, c'est vrai.
Après ça, mon école secondaire, tout était asphalté. Mon école primaire, pardon, tout était asphalté. Fait que, tu sais, c'était encore l'été. On recommençait l'école. Puis l'odeur de la pluie qui était chauffée par l'asphalte. Puis là, tu rentrais à l'école, ça sentait une odeur particulière.
C'est fou la mémoire olfactive. Hein?
Oui, il y a ça. Ouais, c'est une des plus grosses mémoires qu'on peut avoir, soit dit en passant. Si vous avez eu quelqu'un qui est décédé, puis ça fait 20, 30, 40 ans, puis à un moment donné, tu recroises son parfum ou tu recroises la cigarette qu'il fumait, tu t'en souviens tout de suite. Hein?
C'est frappant.
Je me souviens encore des manteaux de poêle de mes matantes à Noël qui sentaient... Comment ça s'appelle? Tu sais, les petites boules blanches, les boulamites?
La boulamite. Oh, ouais, oui, mon Dieu, le renfermé, c'était épouvantable. Ouais. Oui.
Ou le cèdre, le fameux coffre de cèdre. Mais c'est ça, je me sens un peu nostalgique. Je ne sais pas si vous autres, vous l'êtes nostalgique. Textez-moi, 418-971. Textez-nous plutôt, parce qu'Audrey est avec moi et elle fait partie intégrante de ce show-là dans l'open mic. 418-971-1021, 418-971-1021. Est-ce que vous retourneriez à l'école demain matin?
Ouh!
Moi, oui.
Mais moi, j'adorais apprendre. J'avais soif. Beaucoup, beaucoup à l'école.
Ouais.
Mais le secondaire a été épouvantable. Le primaire a été le fun, mais tu sais, pas assez de souvenirs. Je retournerais, mettons, à l'université demain.
OK,
pour prendre des cours, faire un certificat, quelque chose.
Mais le secondaire, te tentais pas tant?
Ah non, mais Yann, moi, le secondaire a été vraiment... Je dis pas épouvantable, épouvantable.
C'était cauchemardesque.
Ah, mon Dieu, j'ai pas eu un beau secondaire pendant tout, là.
OK.
Fait que je c'est drôle parce qu'on a notre réunion de secondaire au mois d'octobre qui s'en vient.
OK.
De 10 ans.
T'as-tu hâte de toutes les fesser?
Ben, sais-tu quoi? Je voulais pas y aller. Et la seule façon que j'ai trouvée d'être sûre d'être là pour me donner le coup de pied dans le derrière, de non, t'es quelqu'un aujourd'hui, là, comme ça va être beau, tu te feras pas lancer les tomates, là. Ça a été de m'impliquer dans le comité pour organiser le conventum.
Ah, ouais, t'avais peur d'être encore jugé?
Je sais pas. J'ai vraiment pas passé des bons moments. Puis mon secondaire, c'est pas bien terminé non plus. Fait que c'est comme si je suis restée, je sais pas, un peu traumatisée de certaines personnes, certaines situations. L'environnement de mon école secondaire. Tu sais, c'est drôle, on va avoir une visite avant de se rendre à la salle pour le conventum. J'ai même pas le goût d'aller visiter les corridors de cette école-là.
Arrive déguisée en lutteuse avec un bat de baseball.
Ah, c'est ça! Le pire, c'est que je suis relativement fière de ce que je fais aujourd'hui, mais je pense que tu restes des fois avec des mauvais souvenirs, puis j'essaie de penser avec qui je me tiendrais cette soirée-là.
Tu sais pas?
Ben non, là. Je sais pas où je me peins. Fait que tu sais, je vais l'organiser.
OK.
Fait que je vais servir les cupcakes puis le champagne. J'aurai pas à me faire d'amis. Je vais être occupée cette soirée-là à m'assurer que tout roule. Ouais.
Tu vois, mon primaire, ça a été relativement bien. Quoique, je me faisais traiter de gay tout le temps. J'étais tout le temps avec des filles, moi. J'avais de la misère à avoir des amitiés de gars. J'ai eu un ami qui s'appelait Yann, puis je l'ai connu parce qu'il jouait au hockey avec moi, puis il venait à la même école.
Pourquoi t'as eu de la misère à te faire des amis de gars, toi?
J'en ai aucune idée. C'était plus facile pour moi d'être avec les filles. Le problème étant que je pratiquais pas les mêmes sports. Fait que moi, j'étais le gars qui tenait l'élastique. L'élastique qui tenait avec un poteau, puis l'autre poteau, c'était moi.
Pour faire la corde à danser et compagnie,
Fait que là, les filles, ils faisaient l'élastique. Ouais. Après ça, la marelle, j'ai pas vraiment joué à ça, mais l'élastique. Puis après ça, j'ai fait un peu de théâtre pour essayer d'enlever un peu la timidité que j'avais. Puis moi, c'était au secondaire. Quand j'ai commencé à jouer au foot au secondaire, là, les filles, ils voulaient plus être mon ami. Ils voulaient être...
Ta date.
Ils voulaient me connaître.
Ah, mais t'es chanceux.
Mais
tu
me faisais vraiment traiter de gay, là.
Mais j'ai aucun doute. Moi, j'ai toujours été...
Aucun doute?
Ben non, mais j'ai aucun doute dans le sens. Mais les enfants sont méchants. C'est ça, pas... Ça
j'ai de l'air gay.
Mais même si t'avais l'air gay, Yann, je t'aimerais pareil. Là. Ça changerait pas grand-chose.
On a-tu le droit d'avoir de l'air gay?
Ben 100%. Est-ce que t'as vraiment l'air ou pas, tu sais, dans...
Au primaire, j'étais peut-être un peu trop soigné, mettons.
Mais c'est des stéréotypes d'enfants.
Oui, je sais.
Mais moi, j'avais pas d'amis de filles parce que parce que mon Dieu, je me faisais écœurer puis j'étais pas assez. Je fitais pas dans le moule de la petite fille de secondaire.
Avec du recul, là, je me regarde avec mes petites culottes serrées, ma petite chemise boutonnée jusqu'en haut, mes petits cheveux peignés sur le côté. Je vais te montrer une photo qui sera accessible à personne sauf toi. Puis tu vas dire, ah, OK, ouais, tu faisais vraiment attention à toi. Mais c'était pas tant. C'est que on se sentait tellement comme. T'sais, on n'était pas une famille très, très riche. Là, en fait, famille monoparentale, la mère avait de la misère à joindre les deux bouts, à travailler et tout ça. Moi, j'étais transféré de famille en famille, dont une, la famille La Montagne, que j'ai adoré pendant... Écoute, j'adore encore la famille La Montagne. Mais il y avait cet petit aspect-là de... Quand je m'organisais, j'avais l'impression que je me sentais bien.
Oui.
Fait que... Au primaire, je me peignais les cheveux sur le côté. J'étais tout le temps peigné. J'arrivais jamais à dépeigner à l'école.
Mais le pire, c'est que c'est adorable.
Oui, sauf que les gars trouvaient ça bizarre.
Mais ils trouvaient différent.
Fait qu'ils me rejetaient.
C'est... Les enfants, c'est cruellement méchant.
Puis au secondaire, ben c'est ça. C'est le football qui m'a sauvé la vie. Finalement, j'ai décroché le football, puis j'étais allé plus vers le hockey. Là. Mais ouais, j'ai pas été vraiment intimidé au secondaire.
Non, mais mais le pire, c'est que je pense que tout le monde se fait écœurer à un moment ou à un autre, à différents niveaux de gravité, je vais le dire comme ça. Je pense juste que c'est la façon dont tu réagis à cette intimidation-là qui fait que tu restes un intimidé ou que tu t'en sors, tu sais.
Ouais.
Moi, j'étais pas la fille qui... J'avais pas la réplique facile, je répondais pas, tu sais, j'étais super sensible, j'étais très page blanche, très douce, ce qui fait que, je veux dire, j'étais vraiment une belle cible. Faut que je dise, par exemple, que ça a shifté à un moment donné, là. T'sais, ma fin de secondaire a été beaucoup mieux.
C'est sûr que quand tu étais rendu à 6 pieds, c'était un peu trop dangereux.
Non, mais tu dis ça, mais moi, ce qui m'a aidé, j'ai l'impression que je radote peut-être pour certains auditeurs, mais moi, j'ai été opérée parce que j'avais des vésicules, des pierres dans la vésicule biliaire.
Okay? Okay.
Et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup maigri, mettons, au secondaire. Ce qui fait que...
Tu étais à Grand Parche.
Ben non, mais je suis passée de la petite grosse à Grand Parche. Puis je me suis déjà fait demander, sans blague, au secondaire, quand on était revenu au mois de janvier, si j'étais une nouvelle élève, pour te dire.
Tu ne reconnaissais pas?
Oui. J'ai changé. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à avoir des amis, puis un petit chum, puis ci, puis ça. Mais ça, c'était pas des vraies amitiés, puis c'était pas une personne de confiance avec qui je me suis mis en couple à cette époque-là non plus, tu sais. Okay. Fait que ça a été une drôle de fin de secondaire. Mais c'est sûr que si tu jouais au foot, puis tu étais dans les sportifs, c'est très stéréotypé quand tu es à l'école à cet âge-là, hein?
Oui, peut-être. Bon, moi, c'était ma gang, tu sais. On allait au cours, puis après ça, on se rejoignait aux cases. Puis là, on se partait comme... OK, c'est qui qu'on plante aujourd'hui dans case? Puis on se plantait dans case.
T'étais un intimidateur.
Non, nous autres, c'était une gang de chums. Ah non, on n'intimidait pas. C'était entre vous autres. On faisait pas ça.
OK.
On faisait pas ça. Nous autres, c'était qui on plante dans case aujourd'hui. Puis c'était souvent notre chum qui était le plus gros là, et le plus grand. Fait qu'on arrivait comme 3-4 en fou. Puis on le ramassait.
Pour le ramasser. Il redonnait la monnaie de sa pièce.
Puis là, le surveillait. Ouais, oh les gars, arrêtez de faire ça. Mais on s'amusait. Puis je m'ennuie de cette belle confrérie-là. Puis au cégep, je m'ennuie pas de grand-chose au cégep parce que j'étais pas ben souvent. J'étais plus au bar à côté du cégep, au Pop d'Elzy de mémoire pour ce qui est du cégep de Limoilou. Puis au cégep, ce que je me souviens le plus, Audrey, c'est vraiment la grande pauvreté. Je n'avais pas de maudite ça. Je travaillais chez Ronald McDonald. Ma mère, elle ne pouvait pas m'aider, tu comprends? Fait que je travaillais chez Ronald McDonald à 15, 16, 17 ans. Puis j'essayais de subvenir à mes besoins. Je restais en chambre.
Oui.
Je m'étais loué une chambre. C'était 300$ par mois. Il devait avoir quand même 45 personnes dans ce logement-là, mais moi, j'avais ma petite chambre à moi. Puis je survivais avec le Kraft Dinner.
Mais ça, on a tous vécu ça. Moi, le Kraft Dinner, je sais pas si tu peux me pelleter. Moi, je mettais des saucisses à hot dog dedans. Puis quand je voulais me faire une sauce rosée, c'est ce que je faisais. Je mettais du ketchup dans mon Kraft Dinner. Le goût de tomaté avec le fromage, ça crée un genre de truc un peu plus fancy.
La première blonde qui vient chez nous, hey, qu'est-ce qu'on mange à soir? Ben, on mange du Kraft Dinner. OK, peux-tu me donner une assiette? Ah, j'ai pas d'assiette.
Non.
J'ai juste.
La poêle.
J'ai juste la poêle. J'avais volé des fourchettes à café.
Fait que ça fait partie de la beauté.
Puis les deux, on mangeait le Kraft Dinner avec le ketchup qui avait été ajouté dans le poêle.
Oui, c'est cute, là. C'est ça. T'sais, moi aussi, mon logement, en fait, j'ai été au résidence, ma première année de cégep, puis les trois années suivantes, j'ai fait 5 ans de cégep, moyenne, là, on dirait que je voulais pas sortir de l'école. Les trois années suivantes, j'ai été en appart, mais c'était à peu près ça aussi, 300$ par mois. J'ai été vraiment chanceuse parce que mes parents m'ont aidée avec le logement quand j'étais au cégep. Mmh. Par exemple, j'étais quand même très, très indépendante. J'avais 5 jobs en même temps que l'école. C'était important pour moi de, si je voulais me payer un petit road trip, là, puis qu'ils mettent du gaz dans mon char, puis c'est moi qui payais mes affaires.
Quel âge t'as eu ta première voiture?
J'ai passé mon permis à 16 ans. Puis j'ai eu ma première voiture la même année, en fait, parce que, ouais. Oui, parce que je l'ai coulé 4 fois.
Ah, voilà quelque chose qui me surprend pas.
Je l'ai coulé. Je l'ai passé la 4e fois. Puis quand je l'ai passé, mes parents avaient acheté, c'est ça, la petite Micra, là. Puis c'était comme, okay, elle va devenir la tienne. Tu passes ton examen avec. Puis, nice. Fait que j'ai eu mon auto après qui leur appartenait en réalité. Là, je veux dire, quand je faisais quelque chose de pas correct, ils me l'enlevaient. Là, fait que j'avais comme plus cette liberté-là.
Ils t'enlevaient ton char.
Absolument.
Hey, boy.
Hey, mon Dieu. Ma première année de cégep, j'allais à Saint-Jérôme, OK, c'est en Rive-Nord de Montréal.
Ouais.
La petite ville la plus criminalisée de la Rive-Nord de Montréal. Puis j'allais là en auto, tu sais. J'étais chanceuse, là. Je faisais partie. Puis moi, j'habitais à Blainville. Fait que, tu sais, aller en autobus, c'était long, longtemps, là. Puis un matin, j'avais décidé de ne pas rentrer à la maison parce que j'avais des amis que je commençais à me créer. Tu sais, puis des petits boys ici et là.
Des petits boys?
Ben non, mais je disais, je voyais des amis tard. Vraiment pas. Je voyais des amis tard, puis je disais pas toujours où j'étais. Puis ma mère s'était fâchée, elle m'avait retiré mon auto. Puis j'étais sûre qu'elle allait pas tenir sa promesse. Puis Christy, pendant une semaine, j'étais pognée pour prendre l'autobus puis partir excessivement tôt de la maison, faire 1h30 de bus pour me rendre à Saint-Jérôme. J'étais tellement fâchée. Fait que je suis partie à Jonquière étudier. Comme ça, je me suis dit, elle m'enlèvera plus mon char.
Ah, voilà. Je veux ça t'en sauver. Est-ce qu'il t'aidait pendant tes études?
Bien, il m'aidait quand même beaucoup au niveau du logement. Le reste, moi, je me suis organisée tout seul. Puis c'est drôle parce que ce matin, on a reçu un communiqué concernant un sondage qui a été fait par TD, la banque.
La banque TD,
oui. Oui, parce qu'avec la rentrée, vient tous ces questionnements-là. Tu sais, l'inflation, notre quotidien aujourd'hui, comment ça se passe. Puis la ligne de départ, c'est près de la moitié des étudiants canadiens sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins de base comme la nourriture, le logement. Pour moi, ça, c'est être étudiant, là, à la base. Là, je vois pas de surprise. Il n'y a pas un étudiant qui est riche, là. On s'entend, l'école coûte assez cher. Et 94 % des parents offrent un soutien financier à leurs enfants pendant leurs études postsecondaires. Et par contre, dans ce 94 %-là, il y a 70 % des parents qui disent que ça nuit à leur propre capacité de subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire que quand tes parents, c'est sûr que tu vas tout donner pour tes enfants. S'ils veulent étudier à l'extérieur, tu vas payer, tu sais, mais ça fait en sorte qu'eux autres ont de la misère à payer leurs propres affaires après à maison, l'hypothèque et compagnie. J'imagine que ça fait partie aussi de la job de parent, veut pas. Parmi les étudiants qui ont participé à ce sondage-là, il y a 64 % qui disent, qui essayent de faire un genre de budget, de suivre leurs dépenses mensuelles, mais il y a 40 % seulement qui disent qu'ils sont en mesure de le respecter, puis souvent, bien, sont très, très serrés à la ceinture. Mais encore là, moi, c'est pas des données qui me surprennent.
Non, moi non plus.
Tu sais, je comprends l'inflation et compagnie, mais quand t'es étudiant, y a-tu quelqu'un, 971-1021, par le Twitch, twitch.tv, blvd-fm, étudiant, étiez-vous bien, vous autres, avec votre porte-monnaie? Parce que, mon dernière nouvelle, t'as pas le temps de bien travailler puis de te faire un fond, là.
Moi, je me suis sorti de la misère quand j'ai commencé à travailler dans la restauration, dans le service. Puis après ça,
avec
les
le
bars.
Avec le type et tout.
Tu sais, puis je vais être très transparent avec vous, là, avec les pourboires et tout ça, dans le temps, j'étais étudiant puis je faisais l'équivalent de quelqu'un qui faisait 100 000 $ par année.
Hein?
Fait que si t'imposais quelqu'un, mettons, qui était à salaire, à 100 000 $ par année, puis il restait, mettons, on dit 60 000 dans ses poches, moi, je faisais l'équivalent de quelqu'un qui faisait 100 000 $ par année avec les pourboires.
Mais c'est un sacré salaire.
Mais je travaillais dans des restaurants qui viraient à la planche. Je travaillais au Cosmo. Je travaillais à plein de...
T'as-tu été intelligent? Tu mettais-tu cet argent de l'autre côté ou t'as dépensé?
Donc, ce que je voulais dire, c'est que...
Je suis en même gang que toi. Mais ben, j'ai plus rien de ce temps-là, puis j'en avais des jobs.
J'ai adoré travailler chez Ronald McDonald. Là. C'était, dans le temps, c'était le service militaire.
Ah oui,
puis après
mon
ça,
Dieu,
ils t'embauchaient n'importe où par la suite. Fait que... Mais c'est quand j'ai goûté à l'argent. Tu sais, quand tu sortais du restaurant, puis t'avais 200 à 300 $ dans tes poches, puis t'étais au cégep, puis là, t'allais voir tes chums, puis ils disaient... Hey, on mange encore du Kraft Dinner à soir. Tu disais non.
On s'en va au resto.
On s'en va au resto.
Oui, on se paye la traite.
J'ai 300 piastres. Quoi, t'as 300 piastres? Oui. On peut-tu tout le dépasser? Oui, parce que je vais en avoir un autre demain, c'est samedi.
Est-ce qu'on était niaiseux? C'est épouvantable. Et le pire, c'est que dans toutes ces données-là dont je te parlais, là, on parle de ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui disent qu'ils aimeraient ça, avoir plus de savoir sur tout ce qui est stratégie de budgétisation, de planification financière, parce qu'ils se font un petit budget de ce qu'ils doivent payer par mois puis du salaire qu'ils reçoivent, mais... On est de même quand on est jeune. Tu reçois l'argent, tu as l'impression d'être riche. 200 piastres, tu as l'impression que c'est ta vie. Là.
Ouais.
Puis tu le flambes, c'est sûr. T'sais, tu vis dans le moment présent puis tu ne penses pas à mettre de côté. Il y a un fait super intéressant. Puis Le pire, c'est que je trouve pas ça que négatif. Il y a un étudiant sur cinq dans les répondants du sondage avec 20 % qui obtient principalement ses conseils financiers sur les plateformes de médias sociaux comme TikTok, Instagram, YouTube. Fait que les jeunes vont s'informer directement via des podcasts, via des capsules qui sont faites sur ces plateformes-là.
Ça m'inquiète un peu, mais en même temps, ça me rassure que les jeunes commencent très jeunes à s'occuper de leurs avoirs. Le problème étant la qualité. La personne
Exactement.
Qui va faire le TikTok,
ouais.
C'est-tu quelqu'un qui a étudié là-dedans ou c'est quelqu'un qui n'a jamais étudié là-dedans, qui va te commencer à te parler d'immobilier, puis il va t'offrir des cours d'immobilier moyennant 500 $ puis en te promettant que tu vas avoir un immeuble, mettons, dans
un an. On en parlait hier avec SOS Nancy, avec Nancy Doyon, tu sais, qui est coach familial. Tu as toutes sortes de monde qui s'inventent coach pour n'importe quoi, sans formation. Là.
Exact. Fait que les jeunes, tu sais, il faut vraiment qu'ils fassent attention à qui ils font confiance. Beaucoup de gens t'ont écrit, Audrey, à 17 ans, je me suis sorti de la misère, on a refait un budget le jour. Au dépanneur, la machine de débit m'a dit que je manquais de fonds.
Oh mon Dieu, ça m'est arrivé une fois.
Une boîte de petits gâteaux Vachon, j'avais de l'air épais en vierge devant la caissière.
C'est-tu gênant?
Tu te remets pas mal en question à ce moment-là. Salut, moi j'étais étudiant et je travaillais dans l'Arctique l'été sur un bateau cargo et je faisais 7 mois à l'école par la suite de mécanique. Je faisais environ 70 000 par année.
Hey, c'est intense, là. Puis le pire, c'est que tu vois, moi, chez nous à maison, là, moi j'étais la petite fofolle qui profitait de son argent au fur et à mesure, là, puis qui en donnait à ses amis, là, comme si ça valait rien. Puis mon chum était tout l'inverse. Lui, à partir de 12 ans, il travaillait au petit dépanneur du village ici et là, des petites tâches bien, bien de base. Là. Puis il a toujours collé son argent. Fait que lui, quand il est arrivé au cégep, Yann, là, il avait un méchant bon fond déjà en partant. Mm-hmm. Là. Puis il travaillait l'été pour subvenir à ses besoins dans l'année, puis il dépassait pas le budget qu'il s'était mis. Là. Fait qu'aujourd'hui, ça va super bien, mais c'est pas tout le monde qui a cette conscience-là. Ouais. Là.
Martin est un peu comme nous autres. Aux études, pareil pour moi, j'étais vraiment serré. Je me suis toujours serré la ceinture. Le problème, c'est... quand il y avait de l'alcool, je trouvais toujours de l'argent pour brosser.
Ben oui, mais c'est sûr. Tu sais, si t'as le malheur d'avoir une carte de crédit à 18 ans quand tu rentres au cégep, là, pas trop longue, t'as l'impression que t'as le portefeuille profond, puis...
Ouais. Chris dit, j'étais un étudiant riche, je travaillais au Concorde. Mais c'est ça. Tu sais, c'est que dès que t'avais les moyens de rentrer dans un endroit où il y avait du pourboire, c'était... dans le temps, il t'achalait pas, là. C'était pas... T'es obligé de déclarer 8 % minimum.
Ouais.
C'était le pourboire t'appartient.
Mm. Ah non, j'ai été dans un endroit comme ça aussi, puis... Mais ça n'a rien changé, en fait. Je suis sûre, Yann, je veux même pas savoir combien j'ai fait pendant mes 4 ans de cégep en tout.
Oui.
Je pense que je vais rentrer en dépression.
Moi, tu sais quoi, quand ils ont dit que la maison à M. Laberge, là, sa grande allée valait 6 millions, là, puis il avait acheté 240 000 dans le temps. Tu sais, M. Laberge, c'est l'ancien propriétaire du Dagobert. Maintenant, c'est son fils qui est propriétaire du Dagobert, puis il est ouvert 2 jours/semaine. Mais dans le temps, le Dagobert, ça virait 7 jours/7. Il y avait 2 bars différents. Il y avait un petit bar rock en bas, puis la discothèque en haut.
Mais on descendait à Québec de Jonquière, nous autres, juste pour sortir là.
Ça virait comme pas... Mon père a travaillé comme gérant et portier au Dagobert.
Arrête!
Mais dans le petit Dagobert. Fait que t'avais juste le bar rock à cette époque-là. Puis ça fait longtemps, là, c'est une institution, là. Mais quand j'ai vu que M. Laberge avait comme 6 millions pour sa maison, je me suis dit, il y a peut-être une partie de ses avoirs qui m'appartiennent.
j'ai beaucoup contribué à cette richesse-là.
Le gin tonic qui me vendait à 3$, finalement, c'était plus payant que je pensais.
C'est épouvantable.
10h19, on s'en va en musique, les amis, avec Sarah Dufour, chez Timil.
Bienvenue dans l'open mic.
Ben oui, bienvenue dans l'open mic. Vous avez des choses à nous dire, c'est le 88-971-1021. 88-971-1021, puis après ça, ben, ce sera les nouvelles de Max.
J'essaie de chanter un peu.
Let's find out what's going on. Aujourd'hui aux nouvelles. Le Quickie News de Max.
Excellente journée mondiale de la réunion d'Oasis dans l'actualité aujourd'hui. Peut-être vous mentionner, là, mise à jour de dernière minute, c'est la fin pour l'alerte Amber, l'enfant qui a été retrouvé sain et sauf. Donc la Sûreté du Québec qui remercie tout le monde de sa collaboration. Dès aujourd'hui et jusqu'au 13 septembre, les policiers du SPVQ vont tenir des opérations de sécurité routière dans les zones scolaires. Il va bien sûr y avoir une surveillance par rapport au respect des limites de vitesse, mais les policiers qui vont aussi s'assurer du respect de la réglementation pour ce qui est des stationnements, des passages pour piétons, des panneaux et des signaux lumineux, des autobus scolaires, des consignes des brigadiers scolaires. Les opérations qui vont se faire de 7h30 à 9h, de 11h à 13h et en fin d'après-midi entre 15h et 16h30. Et chaque jour, le SPVQ va publier en matinée sur Twitter quels secteurs, quelles écoles sont surveillées au courant de la journée. Après New York la semaine passée, Bruno Marchand qui va s'envoler pour l'Europe le mois prochain, le maire de Québec qui va participer au prochain congrès mondial de l'Organisation des villes du patrimoine mondial et à la rencontre du bureau de l'Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. M. Marchand qui est respectivement président et vice-président des événements en question. Le premier qui se déroule fin septembre en Espagne, le deuxième début octobre en France. Les détails qui seront annoncés plus tard. Et d'ailleurs, il y a conseil municipal, le premier depuis le retour des vacances, ce soir à Québec. Au sport, retour au Stade Canac pour les capitales, série face aux Knockouts de la Nouvelle-Angleterre. Au cyclisme, le gagnant du dernier Tour de France, Tadej Pogačar, qui devrait participer au Grand Prix cycliste de Québec et de Montréal les 13 et 15 septembre prochains. Et au tennis, 5 Canadiens sont en action aujourd'hui d'entrée de jeu au US Open. Félix Auger-Aliassime, Leila Fernandez, Denis Shapovalov, Gabriel Diallo, Bianca Andreescu. Et pour ce qui est de la sixième Canadienne au tournoi, Gabriela Dabrowski, elle jouera demain. Salut, je retourne écouter du Machine Gun Kelly.
On vous a interdit l'entrée aux États-Unis? Besoin d'un way?
On est encore une fois gâtés à niveau température. C'est un 21 comme degré qu'on ressent actuellement. Mais avec l'humidex, ça pourrait être une température ressentie tantôt de 27 degrés. Donc, ça risque d'être assez chaud pour aujourd'hui encore. Ça pourrait même monter jusqu'à, Audrey, jusqu'à 34. Oui, effectivement, épouvantable. Ce soir, cette nuit, nuageux avec un minimum de 18 degrés. Mercredi, des averses qui devraient cesser en matinée, un maximum de 21. Jeudi, ensoleillé, maximum de 21. Et vendredi, ce sera ensoleillé, maximum de 24. Et si je regarde pour ce week-end jusqu'à maintenant, dimanche, ce serait la plus belle journée de la fin de semaine avec une alternance de soleil-nuage avec un maximum de 25 et peut-être un peu de pluie pour ce qui est de samedi.
Éventuellement, on va peut-être avoir quelques températures d'automne qui vont se pointer le bout du nez pour vrai. Guillaume Couture, dans la circulation à la hauteur de la route du président Kennedy, là, semble y avoir un petit ralentissement, sachez-le. Pour le reste, honnêtement, ça roule super bien en ce moment. Quoi que ce soit, bien, c'est le 418-971-1021 par texto, vous n'hésitez pas.
On est extrêmement touché par un article de TVA Nouvelles qu'on a vu passer il y a de ça quelques jours. On parlait d'un individu qui est atteint d'un cancer du cerveau qui se bat actuellement pour obtenir un traitement pour prolonger sa vie. C'est un père de Compton en Estrie qui mène le combat de sa vie, puis on a eu idée de lui jaser. Son nom, c'est Michael Bro, et il est actuellement assis sous son tracteur, mesdames, messieurs.
J'adore ça.
Salut, Michael.
Salut, ça va bien?
Ça va bien. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que tu as le cancer du cerveau, tu te bats pour ta vie, puis tu continues de travailler sur ta terre. Écoute, mon gars, tu as tout mon respect dès le début de l'entrevue, je peux te le dire. Comment ça se passe actuellement pour toi, là?
Ça se passe bien au niveau de la physique, là, tout est sous contrôle. C'est un petit peu, moralement parlant, c'est un petit peu plus difficile, là. Mais il y a des journées que c'est mieux que d'autres, mais on essaie de garder le positif, là.
T'as combien d'enfants, hein?
J'ai deux enfants, 9 ans puis 11 ans.
Puis t'as une terre à t'occuper?
Oui.
Peut-être juste pour mettre les gens en contexte, on a expliqué un peu ce que tu avais, mais qu'est-ce qui s'est passé, mettons, dans la dernière année pour toi? Parce que c'est au printemps que vous avez découvert qu'il y avait tumeur au cerveau de ton côté, là.
Oui, bien, ce printemps, justement, je travaillais aux semences, puis j'ai perdu l'usage de ma jambe gauche en dedans d'environ 3-4 jours, je te dirais. Fait que là, c'est ça, j'étais allé consulter, puis ils m'ont découvert ça.
Okay. Ils t'ont fait un scan du cerveau puis ils ont découvert que tu avais un glioblastome, c'est ça?
Oui, bien c'est ça. Ils ont fait un scan, ils ont vu qu'il y avait une tumeur, mais sans savoir ce que c'était un glioblastome tout de suite. Dans le fond, il a fallu qu'ils fassent on a eu une opération pour l'enlever. Mm-hmm. Les chirurgiens du CHU à Sherbrooke l'ont enlevé. Puis après ça, ils l'ont envoyé faire analyser pour se rendre compte que c'était un glioblastome.
Okay.
C'est le plus courant des cancers chez
l'adulte.
Des cancers du cerveau. Là,
puis,
ouais.
Est-ce que c'est le cancer le plus mortel?
Ah, je ne saurais pas te dire. Là. C'est le plus courant puis il est bien agressif, ça a l'air. Là.
Ben, tu sais, je lisais que c'est ça. C'est le plus fréquent cancer du cerveau chez l'adulte, puis c'est aussi le plus dangereux et le plus mortel en frais de cancer du cerveau, effectivement. Là. Est-ce que ça peut arriver à n'importe qui où il y a peut-être une prédisposition à ce genre de cancer-là? Le sais-tu? Ils t'en ont-tu informé?
Non, j'ai aucune prédisposition. Dans le fond, je suis l'exemple que ça peut arriver n'importe quand à n'importe qui. Oui.
Ils t'ont, là, on rentre un peu dans ta vie personnelle, mais ils t'ont annoncé ça de quelle façon hein, que tu avais ce glioblastome-là, puis les opportunités que tu pouvais avoir, puis les opportunités qui, peut-être dans quelques mois, quelques années, que tu n'auras plus. Ils t'expliquent ça comment dans la salle?
Ben, dans le fond, j'étais avec ma conjointe suite à la biopsie de cette masse-là. Dans le fond, ils nous ont rencontrés pour nous expliquer que c'était de ça que j'étais atteint. C'est incurable, dans le fond. Il n'y a pas de remède contre ça, comme c'est là. Il y a un traitement qui existe pour essayer d'empêcher que ça revienne rapidement parce que c'est un cancer qui va revenir, qu'ils m'ont dit. Le traitement s'appelle Optune de NovoCare. C'est des champs électromagnétiques qui envoient dans le cerveau par un casque qui nous met sur la tête, là, des électrodes, c'est 36 électrodes qui nous placent sur la tête, comme un casque, là, c'est un traitement. Puis ça empêche les cellules cancéreuses de se reproduire puis de proliférer là-dedans. Là.
OK. Et ça, est-ce que c'est une machine qu'on a au Québec?
C'est une machine qui a été approuvée par Santé Canada. C'est approuvé aux États-Unis, c'est approuvé au Canada, mais c'est pas couvert par le Québec. Puis c'est une machine, c'est un traitement qui est très dispendieux. Ils m'ont dit que si je voulais le payer, que c'était 25 000 $ par mois plus taxes. Fait que tu sais, on est over 30 000 par mois. Moi, ben j'ai des assurances. Malheureusement, mes assurances le couvrent pas parce que c'est pas un médicament. Si c'était un médicament ou une injection, une seringue, whatever, là, c'est sûr qu'il serait couvert. Mais vu que c'est un traitement, c'est un appareil médical, c'est pas couvert par mes assurances, c'est pas couvert par la RAMQ. Fait que là, on se bat, moi et ma conjointe, pour essayer de faire renverser la décision de la RAMQ de pas le couvrir. Pas seulement pour moi, mais pour aussi tous les patients qui sont atteints de ça, puis qui seront atteints de ça. T'sais, je suis pas le premier, je suis pas le dernier, fait que... Faut que ça serve à quelque chose. Je me suis dit avec ma conjointe, tant qu'à passer au travers de ça, tout simplement de rendre ça utile, là, puis on va se battre jusqu'au bout pour obtenir le traitement, pour que la RAMQ le couvre.
Puis avez-vous eu des réponses sur le pourquoi c'est pas couvert par la RAMQ? J'imagine que vous avez fait certaines recherches par rapport à ça.
Ben, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On a des réponses, mais on a, tu sais, c'est des semblants de réponses. C'est vraiment compliqué. C'est des longs emails qui veulent rien dire des fois, là, puis,
c'est décourageant.
On ne sait pas pourquoi que c'est pas couvert, parce que c'est un traitement qui fonctionne. Moi, c'est mon chirurgien, mon neurologue qui m'a conseillé ça. Il m'a dit, essaye d'avoir ça. C'est le plus prometteur des traitements. C'est le plus prometteur, puis c'est le seul. Fait que, tu sais, si ça peut permettre de prolonger ma vie jusqu'à temps qu'ils trouvent un traitement pour ce glioblastome-là, parce que, tu sais, les recherches avancent très vite avec l'intelligence artificielle, puis les chercheurs sont sur le cas, là, parce que c'est ça. Si ça peut me permettre de vivre jusqu'à temps qu'ils trouvent de quoi qui peut faire... qui peut venir guérir ou prolonger ma vie d'autre façon, ben tant mieux. Mais tu sais, c'est le seul traitement. Fait que c'est pour ça qu'on se bat là, aujourd'hui pour essayer d'obtenir ce traitement-là couvert par le gouvernement.
Michael Brault, est-ce qu'avec ta conjointe, vous avez évalué peut-être que vous pourriez aller aux États-Unis pour vous faire traiter? Est-ce que ça peut ressembler à peu près au même coût aux États-Unis? Je trouve que 27 000 $ par mois pour un casque que tu te mets sur la tête, je trouve qu'on exagère peut-être un peu sur la trouvaille, là.
Ouais, ben c'est ça. Là, on est en discussion avec les États-Unis aussi. Là, on a trouvé un oncologue là-bas qui va me prendre en charge. Toutefois, on n'a pas de réponse encore aujourd'hui à ce jour pour voir si ils vont me le couvrir là-bas. Mais on travaille fort aussi aux États-Unis parce que nous, à Compton, on habite à peu près à 15 minutes des lignes américaines. Mm-hmm. Fait que c'est pas un enjeu pour nous de traverser de l'autre côté au Vermont là, pour aller chercher de l'aide. Fait que oui, on est en pourparlers avec les États-Unis pour savoir ce qui se passe, mais on aimerait vraiment mieux être couvert par le Québec. On est des payeurs de taxes puis on fait notre part. Fait que tu sais, je verrais pas pourquoi que les États-Unis me le couvriraient puis pas le Québec. Mm-hmm. T'sais. Mais oui, écoute, le but premier, c'est que je le porte. Fait que oui.
Puis c'est même au-delà de. C'est même au-delà de ça, Michael. T'sais, vous êtes chanceux, vous habitez près des lignes, puis je dis chanceux entre guillemets, mais d'entrée de jeu, tu l'as dit, tu te bats pour en parler haut et fort aussi parce que c'est, ça peut peut-être aider d'autres personnes qui l'ont pas, l'accès facile aux États-Unis, peu importe la raison, là.
Ben exactement. Puis, tu sais, moi, je suis chanceux, je suis bien entouré. J'ai une famille extraordinaire, des amis extraordinaires, une communauté, tu sais, comme Terne en Estrie, tu sais, proche de Quaticook, la crème glacée Quaticook. On est des petites communautés qui on se connaît toutes. Fait que, tu sais, quand il y a de quoi qui se passe, ben, on est touché par tout ça. Puis, j'ai l'appui de beaucoup de monde. On a beaucoup de contacts à travers tout ce monde-là. Fait que, tu sais, je me bats justement pour peut-être des personnes qui sont plus isolées ou moins, tu sais, qui n'ont pas la chance que j'ai d'être bien entouré. C'est quelque chose d'avoir ce diagnostic-là, tu sais, ça sac un coup d'un dent, là, je ne vous cacherai pas. Mais d'avoir à se battre pour le seul traitement qui existe, qui soit couvert, ben c'est un autre coup de masse d'un dent. Tu sais, ça devrait pas être. Là. Ça devrait que, OK, on a ce traitement-là d'approuver à Santé Canada. C'est couvert, porte-le, puis bonne chance.
Oui, puis mettons, on s'entend pour dire que tu pourrais mettre ton énergie ailleurs en ce moment, là.
Ben exactement. Tu sais, moi, ma conjointe, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ça à 100%, les emails, puis c'est aller-retour entre tous ces hauts mondes-là, à NovoCure, puis au gouvernement. Tu sais, ça prend beaucoup d'heures, là, beaucoup de temps d'investir.
Ouais. Michael, je pense fou, c'est peut-être pour ça que je fais de la radio, parce que si je pensais pas fou, je ferais probablement pas de radio. Est-ce que vous avez pensé peut-être à acheter ce casque-là avec l'aide d'une fondation peut-être qui pourrait donner un don à l'Institut de cancérologie de Montréal ou de Québec ou de ta région? Est-ce que ce serait possible d'acheter ce casque-là pour l'offrir justement à moindre coût à des gens qui auraient besoin de ce casque-là, qui pourrait servir à énormément de gens? C'est quand même un cancer qui est extrêmement répandu.
Ben écoute, on n'est pas rendu là encore. On n'a pas discuté d'acheter le casque non plus. Comme là, on est plus comme à essayer de pousser à ce que le gouvernement le procure pour les patients comme moi atteints de ça.
Ouais.
Sauf que tu sais, oui, c'est une option. C'est sûr qu'on va poser la question, mais on ne l'a pas posé encore la question. Là, ouais. Parce qu'on s'est. Tu sais, j'ai fini mes traitements il y a un mois. Puis ils m'ont dit qu'il faut que tu commences à porter ça début septembre. Fait que, tu sais, on avait encore espoir que ça bouge au gouvernement, mais si ça bouge pas assez vite, on va être en discussion avec NovoCure pour savoir s'il y a possibilité de l'acheter. Là, ouais.
Ben oui, parce qu'avec l'aide d'une fondation, ou peut-être nous, à Québec, on a la chance d'avoir Ameublement Tanguay. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette entreprise-là. Maurice Tanguay est extrêmement impliqué auprès des enfants. La fondation Maurice Tanguay existe depuis des années. Puis le nombre de choses à l'intérieur des hôpitaux qui sont une gracieuseté de la fondation Maurice Tanguay, vous n'avez pas idée. Ben peut-être que vous pourriez justement à la gang, avec toute ta belle organisation dans ton secteur, dire, regardez, comment ça coûte le casque? Faire une fondation, puis donner ça à un endroit bien précis où les gens de ton secteur pourraient aller se faire soigner. Mais ça, c'est une hypothèse. Là. Moi, je suis dans le délai.
Parce
que
honnêtement,
ça m'a troublé depuis que j'ai lu l'article sur TVA Nouvelles de ton histoire, Michael Brault, parce que tu as des enfants, tu as des jeunes enfants, tu es un jeune père de famille, tu travailles extrêmement fort, tu fais du 7 jours sur 7 sur ta terre, puis de penser les laisser sans père, ça fait pas partie de ton... Ça fait pas partie de tes idées. Là. Tu veux te battre pour rester en vie. Là, il y a un premier 27 000 $ qui a été ramassé pour avoir ce casque-là sur la tête ou vous êtes sur le point d'atteindre l'objectif de 27 000?
Ben, tu sais, oui, il y a un 27 000 qui a été ramassé grâce à Quaticook Sport dans mon coin. Nathalie Gagné qui a eu un diagnostic de cancer du sein que j'ai rencontré justement pendant les traitements de radiothérapie. Elle a mis ça en œuvre. Toute la communauté, comme je disais tantôt, on est tissé serré, nous autres, dans notre coin. Puis ça m'a touché vraiment de voir tout ce beau monde-là. On a organisé une soirée épluchette de Blédin chez Quaticook Sport. Dans le fond, je dis on, mais c'est Nathalie qui s'est occupée de ça avec son entreprise, ses employés. Puis écoute, il y avait au-dessus de 500 personnes cette soirée-là. Puis ils ont été en mesure de recueillir, c'est ça, de recueillir un 27 000 $, mais T'sais, on s'entend que c'est à tous les mois. T'sais, je veux pas avoir à me battre pour recueillir 27 000 $ par mois pour payer ça. Je veux dire, m'amener, ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire,
mais ça te donne un autre 30 jours de délai pour continuer de faire avancer tes affaires de ton côté. C'est ça que je trouve intéressant que avec ces dons-là que ces gens-là ont fait pour t'aider pour le premier mois. Là.
Ben c'est ça, c'est ça. C'est, nous autres, ça nous permet peut-être de ça nous permet de nous concentrer sur la recherche de solutions en exact. Attendant.
Comment t'as appris ça à tes enfants? Puis tes enfants ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit à leur père?
Ben écoute, je te cacherai pas que c'est ça le plus dur dans la maladie que je trouve, là. C'est quand je regarde mes enfants puis qu'ils sont obligés de vivre à travers ça. Je veux dire, on filtre un peu les informations qu'on leur donne, là, mais ils sont au courant, puis sont venus avec moi au traitement une couple de jours, là, sont venus voir la machine de radiothérapie, voir comment que ça virait, là, puis ils étaient bien curieux. Fait que, tu sais, sans cachette, je veux dire, on vit sur une ferme, sont au courant de la vie, sont au courant de la mort, tu sais, ça fait partie, la mort fait partie de la vie, fait que, tu sais, on leur explique que c'est ça, c'est une maladie que je vais avoir toute ma vie, mais que je baisserai jamais les bras, puis je suis un gars qui est combatif de nature, je suis un gars qui est positif, fait que, écoute, j'ai changé mon alimentation, je fais de l'exercice, je suis un gars qui est en forme, je veux dire, je peux pas me plaindre de ma condition aujourd'hui parce que je suis capable de travailler, mis à part un peu plus de fatigue que d'habitude. Mais les enfants, c'est ça, sont au courant, puis on vit au jour le jour, minute par minute, puis on essaye de tirer le plus qu'on peut du temps, là.
Puis, Michael, est-ce que je peux me permettre de te demander, tu sais, là, bon, si tu as le traitement, ça aide à ralentir la progression du cancer. Si on met ce traitement-là de côté 2 minutes, qu'est-ce que les médecins t'ont dit par rapport à ton futur? Est-ce qu'ils ont mis une marque de temps? À quel point ça peut dégénérer vite ou pas?
Non, parce qu'ils le savent pas, là, dans le fond. Ça, parce que moi, j'ai été chanceux. L'opération s'est super bien déroulée. Ils ont été capables d'enlever 100% de la masse. Sauf qu'ils peuvent pas prédire quand que ça va revenir. Ils peuvent pas mettre de temps. Ils peuvent pas mettre de rien. Ils savaient pas, dans le fond. On a posé la question, mais ils savaient pas. La seule chose qu'ils savent, c'est que le traitement Optune de NovaCare, lui, il fonctionne, puis que c'est ma meilleure chance, comme c'est là, pour aller chercher des belles années.
Hey, je pose des questions. Bon, Michael Bro, tu es un agriculteur. Actuellement, tu es dans ton tracteur, puis tu nous parles de ta terre et tout ça. Quand il arrive la maladie comme ça, ça fonctionne comment pour vous autres? Vous êtes souvent les seuls employés de vos terres, là. Comment vous faites pour que ça continue pareil?
Ben moi, je suis chanceux, j'étais avec mes 3 cousins, puis on a une entreprise quand même, je te dirais, de moyenne envergure.
Ouais.
On a des employés, fait que, tu sais, je suis pas là. Ben, le temps que j'ai été opéré, puis le temps que je revienne de ça, ben, les gars, ils ont pris les choses en main, puis j'ai beaucoup d'aide de ce côté-là, fait que non, okay. On est bien chanceux.
Okay, fait que tu t'en tires de ce côté-là. Michael, ça a été une super de belle entrevue. J'espère qu'il y aura une suite pour toi. Ben honnêtement, moi, ça fait déjà quelques jours que tu fais partie de mes pensées parce que moi aussi, je suis un jeune père de famille. Ben, de moins en moins jeune, mais je suis un jeune père de famille avec des jeunes enfants. Puis l'histoire qui t'arrive de te faire annoncer du jour au lendemain que tu as un cancer et tout ça, je veux dire, quand on est parent, on y pense tout le temps. T'sais, la dernière des affaires qu'on veut, c'est de ne pas être là pour aider nos enfants puis les voir grandir. Puis toi, ben, ça t'arrive. Tu as dit tantôt que tu as pris conscience depuis depuis qu'ils ont signifié que tu avais un cancer. Tu as pris conscience un peu plus de tes affaires. Meilleure alimentation, c'est-à-dire meilleure hygiène de vie. Y a-tu des choses qui ont changé dans ta tête depuis ce jour-là où on t'a annoncé que tu pouvais être décompté?
Ben, il y a de l'anxiété qui s'est installée, c'est sûr. Là, je te cache pas que avant je pensais pas beaucoup à la mort, mais là, veux pas, on est comme face à cette situation-là. Fait que, tu sais, c'est ce qui change un peu dans la tête, là, vis-à-vis, en comparant avant que j'aille ce diagnostic-là, si vous voulez, là, c'est ça, c'est l'anxiété qui s'installe, mais écoute, je prends des grandes marches dans le bois, j'ai la chance d'avoir avoir des forêts sur les terres, fait que tu sais, ça l'aide à oxygéner le cerveau, puis à avoir les pensées un peu plus claires. Puis j'ai la chance d'avoir une famille puis des amis qui me supportent là-dedans aussi, fait que tu sais, on pense à la mort, mais personne ne sait comment de temps qu'il reste, hein. Fait que tu sais, on revient ça de bord, puis en même temps, c'est-tu une chance de savoir que j'ai ça justement pour profiter plus, puis fait que tu sais, il y a plusieurs façons de voir ça. Fait que j'essaie de prendre la meilleure façon de le voir, puis de traverser à chaque jour que l'univers m'apporte, puis d'en tirer le maximum.
On est juste nous trois, là, Michael. Il n'y a personne d'autre qui écoute, là. On se plaint-tu pour rien quand on est en santé?
Quand on a la santé, on se rend pas compte qu'on a tout. Je vais te
Ouais.
dire, quand on n'a plus de santé, on n'a plus rien.
Exact, c'est vrai.
Ouais.
Hey, ça a été un plaisir de te jaser, Michael. On te souhaite la meilleure chance pour la suite. Puis pense à ça. Pense gros. Pense sale. On va l'acheter, cette maudite machine-là, avec l'aide d'un organisme ou d'une grosse entreprise de ta région qui vont vouloir avoir énormément de visibilité, mais qui vont faire ça d'abord et avant tout pour que les gens qui ont le même cancer que toi puissent se faire soigner à moindre coût. Parce que 27 000 $ par mois pour se
C'est
faire
pas ça, pas de
soigner,
bon sens.
pour se mettre un casque sur la tête, c'est beaucoup trop cher. Fait que voyez grand, monsieur Bro, puis je te souhaite un bel avenir.
Puis tiens-nous au courant.
Ben, merci beaucoup. Très apprécié que vous ayez pris le temps de me rencontrer, de m'interviewer là-dessus. Puis je pense que d'en parler, c'est la première des choses. Si ça peut sensibiliser du monde, ben tant mieux, ça aura servi à ça.
Un vrai gentleman farmer qui est assis sous son tracteur. Salut!
Merci, salut
Salut,
bien!
Merci, bye bye. Ah,
Hey,
quelle histoire touchante.
c'est ben, touchant, puis c'est une maudite leçon en même temps. Là, on dirait que ça frappe toujours. Puis moi, ce que j'admire, on dirait, de ces gens-là, des fois qui tombent malades, c'est à quel point tout d'un coup ils ont envie d'aider les autres. T'sais, il y en a
Ouais.
déjà dans son assiette assez, me semble, en
C'est
ce moment-là.
l'acceptation. Je pense que Michael a eu une partie d'acceptation de dire, OK, c'est le jour 1, je commence mon combat. Je vais me battre jusqu'à temps que je sois capable, jusqu'à temps que je sois plus capable. Puis, tu sais, les gens dans son entourage, les entreprises et tout ça, qui ont ramassé le 27 000 $ pour le premier mois, moi, je trouve ça formidable que tout le monde puisse l'aider. Mais s'il y a des politiciens de son secteur, s'il y a des entrepreneurs de son secteur, cette machine-là, bon, ça coûte 27 000 pièces le traitement, mais si on l'achète au complet, le casque, puis on fait une donation à un organisme, il y a une visibilité qui vient avec ça. Puis en plus, ben, on va se le dire, quand tu fais une donation à un hôpital, ben, tu as un reçu d'impôt, là.
Oui, puis ça peut prolonger des
Ouais,
vies. Là. Moi, ce que je
exact.
trouve fou, c'est que ce cancer-là, il faut se le dire. Là, en passant, on parlait avec Michael Brault, qui est atteint d'un cancer du cerveau qui s'appelle le glioblastome. C'est une tumeur, en fait.
Incurable.
Ben oui, puis c'est le cancer le plus fréquent du cerveau chez l'adulte. Puis effectivement, tous ceux qui ont ce cancer-là finissent par en décéder plus tôt que tard, malheureusement. Puis ce traitement-là, le Optune, qui n'est pas couvert par la RAMQ, c'est la plus récente technologie pour être capable d'aider ces gens-là à prolonger leur vie le plus longtemps possible. Il me semble que c'est juste logique. Puis je me demande si c'est pas, parce que je peux pas croire que c'est une mauvaise foi, là. Je me demande si c'est pas juste le système qui est mal fait, puis si c'est pas juste long faire en sorte que ce soit couvert, tu sais. Parce que c'est pas le premier traitement, là. Yann, il y a 2 semaines, on a parlé dans le retour avec un gars qui, lui, est épileptique, OK? Et il y a un nouveau traitement sur le marché qui n'est pas encore, de ce que je comprends, couvert non plus au Québec. Puis ce traitement-là peut donner une sacrée meilleure qualité de vie aux gens épileptiques. Puis quand on a fait cette entrevue-là, dans le retour, on s'est beaucoup fait écrire par des gens qui ont cette maladie-là, qui ont plus de vie, là. Le gars à qui on a parlé, Yann, là, il est obligé de retourner chez sa mère pour avoir quelqu'un qui le surveille constamment. Il est obligé d'abandonner son métier de chef cuisinier. Il est devenu enseignant après ça. Il est obligé d'arrêter parce qu'il s'est effondré devant la classe, perdu son permis de conduire, puis aucune capacité à être indépendant. Puis un médicament peut régler ça, mais on n'est pas capable de le rendre accessible à la population, t'sais. Puis Michael avait raison, là. Je veux dire, on paye, là. T'sais, on a notre carte soleil, mais je veux dire, on paye, là. Fait que je trouve ça beau de se rappeler de temps en temps, à travers ces entrevues-là, qu'il il y a peut-être moyen de faire un peu plus.
Je suis sur le site de Fonfon, de l'INES, en fait, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Puis eux ont fait des recherches, justement, sur ce fameux système. On parle d'un dispositif qui s'appelle Optune. Le dispositif Optune, c'est un système portable fonctionnant à batterie qui génère des champs électriques antitumoriaux et qui est conçu pour être porté en continu par le traitement du glioblastome en combinaison avec des thérapies standards. Donc, résection chirurgicale, radiothérapie puis chimiothérapie. Et à la suite des travaux, l'INES a conclu que malgré les besoins importants pour des options permettant de prolonger la vie et diminuer le risque de récidive, la couverture publique du dispositif Optune MC pour le traitement des patients atteints de glioblastome nouvellement diagnostiqué en combinaison avec les traitements standards ne constitue pas une option juste et raisonnable pour le moment. Et c'est probablement en raison des coûts.
Je trouve ça vraiment triste. Tu sais, puis le pire, c'est que...
Mais passons par le privé, Audrey. Moi, j'arrête de penser que le gouvernement peut tout le temps changer les affaires. Là. C'est des fonfons. Ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe directement sur le terrain.
Non, mais c'est une base. Faut ça les devrait comprendre. Être accessible.
Mais
c'est...
moi, des gars comme Maurice Tanguay, des gars comme qui font partie de la famille Tanguay, qui sont un peu partout dans les hôpitaux puis qui font des dons constamment, il y en a plein à la grandeur du Québec. On a la chance, nous autres, d'avoir cette belle famille-là. Puis il y a d'autres belles familles qui font ce genre de bonnes œuvres-là. Mais dans son secteur, il y a certainement des gens comme ça qui seraient prêts à dire « Nous, on aimerait ça, aider les jeunes de notre communauté. On va l'acheter, le casque, puis on va le donner à un hôpital qui rend justement service à des gens qui sont atteints du cancer. »
C'est l'incohérence, je pense, qui me fâche. Puis il y a un texto qui est entré, puis je ne suis pas sûre que je rentrerai là-dedans. Là. Le but, ce n'est pas de faire un débat. Là. Il y a quelqu'un qui nous dit « Mais la carte soleil paie pour certains changements de sexe ou certaines modifications corporelles. Ou... » Puis on dirait que je vais éliminer le changement de sexe et prendre, par exemple, tout ce qui est réduction mammaire. OK, réduction ma mère. Moi, si demain matin, ma poitrine est trop lourde et me donne mal dans le dos, là,
faites jamais
je suis capable de le prouver. Là.
Faites jamais ça.
Attends, c'est sérieux ce que je veux dire.
S'il vous plaît, les filles,
c'est
faites jamais
sérieux.
Ça.
C'est sérieux. Écoute-moi. Demain matin, je serais capable de le faire couvrir. C'est pas nécessaire à ma survie, mais pas du tout. Mais un traitement comme ça, par exemple, ça peut prolonger la vie de beaucoup de gens. Puis on parle pas d'un cancer qui est rare. On parle d'un cancer qui est littéralement le plus fréquent chez l'adulte. Là.
Ben, c'est vrai. Pour ce qui est de la réduction ma mère, c'est la qualité de vie qui va s'améliorer.
Bien, c'est la qualité de vie, mais c'est pas une question de vie ou de mort. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'une affaire de question de vie ou de mort, on n'est pas capable de le faire passer sa RAMQ.
Oui, parce que c'est 27 000 piastres par mois.
Bref, on lance ça dans l'univers. J'ai l'impression qu'on peut pas faire grand-chose de plus, mais c'est un plaisir de pouvoir parler avec Mickaël.
La beauté de la chose, c'est que maintenant, les gouvernements ainsi que les politiciens, comme la Coalition Avenir Québec, donne des contrats à des firmes de communication qui, eux, branchent les ondes radio directement dans leur système de vérification avec leur ordinateur.
Quand est-ce que Mme Guilbeault a été nommée en ondes?
Puis quand on les nomme...
Oh, ben regarde, Geneviève Guilbeault, François Legault, Geneviève Guilbeault, François
Et quand on les nomme, ben, elles reçoivent un dossier quelques jours plus tard. Voici les sujets qui ont été abordés avec votre nom ou avec,
Dubé.
Ou avec le nom de votre entreprise. Christian Dubé, Christian Dubé, Christian Dubé.
Christian!
Ouais, c'est ça.
Oh, Seigneur.
Ah, gang, on peut se réveiller.
Oui, hey, blvd.fm, si vous voulez réentendre cette entrevue-là avec Mickaël Brault, qui est atteint d'un cancer du cerveau et qui se bat pas juste pour lui en passant, là, pour tout le monde qui potentiellement pourrait être atteint et n'aurait pas accès à ce traitement-là.
Yes. Hey, le Port de Québec vous invite à la 3e édition de la fête maritime familiale. C'est quand ça? C'est le 7 septembre prochain. Donc, on vous invite à venir découvrir l'univers maritime à Québec dans une ambiance qui est festive et toujours familiale. C'est une superbe occasion de passer du temps en famille au cœur de la ville de Québec. Aussi, il y a des cadeaux qui seront offerts aux participants. Il y a de l'animation déambulatoire, de la démonstration aussi qui va avoir lieu sur le fleuve. Il y a plusieurs activités gratuites en plus. Ça se passe samedi, le 7 septembre prochain. À quelle heure? Ben, c'est de 13h jusqu'à 17h au quai 21 derrière l'Agora du Port de Québec. On vous attend. Pour plus d'informations, visitez leportdequebec.ca ou encore Facebook du Port de Québec. On fait une pause, on vient.
T'es un fan de podcast?
Ah, la petite Audrey qui nous fait vivre des émotions pendant la pause. On revient un peu sur la discussion qu'on a eue avec Mickaël Brault concernant ce qui lui arrive. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, Mickaël est un peu décompté parce qu'il y a un cancer du cerveau qui est pas guérissable.
Non, un glioblastome qui est le cancer le plus fréquent du cerveau chez l'adulte. Puis c'est ça, c'est que c'est mortel, là, carrément. Là. Puis c'est fou parce que Christique s'armait un peu en... C'est relatif, je trouve. Ça devient relatif, nos petits problèmes du quotidien.
Ça veut pas dire qu'on peut pas considérer que les problèmes du quotidien soient des problèmes quotidiens. C'est juste que quand ta vie est en danger, puis là, tu t'inquiètes pour ta vie, tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants et tout ça, et tu relativises.
Puis c'est très personnel, ce que je dis. Là. Je veux dire, ça veut pas dire que tes problèmes sont pas valables dans la vie. Là. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais je trouve juste que moi, personnellement, c'est l'effet que ça a sur moi de me dire comme, hey, ben l'affaire pour laquelle, mettons, je me rongeais les ongles le matin, là, sérieusement, ça vaut-tu la peine?
Non, c'est ça.
Comme dans mon temps de vie
quand
précieux.
Quand tu
disais
à chum, là, tu vas arrêter de laisser traîner tes bobettes dans le salon, ça me tanne.
Tu sais, c'est-tu si grave que ça, dans le fond, mettons, l'odeur que ça dégage? Puis, tu sais, c'est-tu si.
L'image!
Non, mais tu sais, il a dit à un moment donné, Michael, quand on s'est jasé tantôt, c'est une chance que j'ai, dans le fond, d'avoir un cancer. Je trouve que c'est frappant parce que ce qu'il veut dire à travers ça, évidemment, c'est que tu prends conscience du temps que tu as. Puis là, tout d'un coup, rien n'est vraiment important. Puis tu profites à 100% du fait que tu respires et que tu es en vie. T'sais. Bref, ça me met toujours. Ça me rend. Philosophique, c'est-tu le bon terme? Ça me rend. Je vais passer ma journée à me poser des questions sur la vie.
Ben, c'est bien. Ben, cette émission-là, ça va servir à ça.
Absolument.
Puis curieusement.
Peut-être pour ça que je suis là, dans le fond.
Ouais, c'est moi qui anime.
Oui, c'est.
C'est encore plus bizarre pour mes boss.
Tout va bien. Tout je trouve qu'on fait une belle balance, toi. Moi, tu me ramènes, c'est ça l'affaire.
Oui, je suis totalement à l'opposé. Tu sais. Hey, on va parler d'un sujet que vous avez certainement entendu ou vu sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un gars. Puis avant qu'Audrey nous parle de l'histoire au grand complet, je vais vous parler de l'individu parce que moi, cet individu-là, je le connais très bien.
Mais tout le monde
depuis
des
années et des années. Et cet individu-là a mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir ça sur Facebook, vous pouvez voir ça sur TikTok. C'est un Hells Angels qui est face à une policière qui lui demande de lui remettre le 4 000 $ qui était dans les poches de ce Hells Angels-là. Ce Hells Angels-là, c'est Martin Gamache. C'est le numéro 1 des Hells Angels dans la grande région de Québec. Est-ce qu'il est aussi puissant aujourd'hui qu'il l'était il y a 2 ans? Ça, je ne sais pas.
Il est encore dans le top 10.
Je n'ai pas cette information-là. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a encore des business à Québec. Il y en a aussi dans le secteur de Lévis sur Guillaume Couture. Il vend des chars. C'est un gars qui est paru dans l'actualité parce qu'il y a quelques-unes de ses business qui ont passé au feu dans les dernières années. Et c'est cet individu-là qui a mis cette vidéo-là en ligne. Et aujourd'hui, on a un bel exemple qu'il ne faut pas toujours se fier à juste une vidéo avant de se faire une idée.
Mais c'est ça l'affaire. Tu sais, dans les derniers jours, ça s'est mis à se promener. Puis le titre de la vidéo, c'est « Comment se faire voler 4000 pièces par la police ». Fait que c'est sûr que les gens se sont complètement enflammés ces internets. Puis tu l'as dit, Martin Gamache, tu sais, dans les derniers articles faits avec des policiers qui témoignent, qui... C'est considéré par les forces policières encore à ce jour comme l'un des 10 criminels les plus influents de la province. Fait que oui, à Québec, mais il est dans le top 10, là. Fait qu'à mon sens... La réalité, c'est que les policiers devaient attendre une opportunité parfaite pour essayer de le coincer d'une façon ou d'une autre, pour faire savoir qu'ils sont après lui, si on veut. La vidéo, j'ai envie qu'on fasse entendre un bout d'extrait. Puis ce qui va suivre, en fait, c'est l'explication de Farnell Morissette. Farnell, vous le connaissez, vulgarisateur d'actualité. Il est collaborateur toutes les semaines avec l'équipe de Rage Against le matin. J'ai beaucoup d'admiration pour ce gars-là. Puis il remet un peu les choses en place sur ce qu'on voit dans la vidéo, puis est-ce que les policiers ont le droit de faire ou non au moment où on se parle?
Si vous donnez pas votre argent, j'ai à la minute.
Moi, pourquoi tu m'as fait tout à l'heure?
Si, une personne raisonnable va passer dans ses portes. Donne-moi ton argent tout de suite, sinon je t'arrête, tu reviens dans mon char. L'argent, je vais la compter avec vous, puis je vais vous donner un reçu.
Vous avez peut-être vu cette vidéo-là circuler dans les derniers jours, où on voit une policière confisquer 4 000 $ d'un homme en disant qu'une personne raisonnable n'aurait pas autant d'argent comptant dans ses poches. Je peux juste spéculer parce que j'ai pas le contexte complet du vidéo, sauf ce qu'on voit. Si vous en savez plus, s'il vous plaît, dites-le-moi. Mais il y a beaucoup de façons différentes, selon des lois fédérales ou provinciales, qui pourraient permettre à un policier de saisir ce genre d'argent-là d'une personne. Selon le Code criminel du Canada, par exemple, qui est une loi fédérale, un policier a le droit de saisir à peu près n'importe quoi si le policier a des motifs raisonnables de croire que cette chose-là est le résultat d'un crime ou a été utilisée dans la commission d'un crime. Il y a aussi des lois similaires au Québec, et d'ailleurs, il y en a une nouvelle qui est encore plus précise. Depuis l'adoption du projet de loi 54 par l'Assemblée nationale du Québec le 28 mars 2024, n'importe quel montant comptant de 2 000 $ ou plus est automatiquement présumé être le résultat d'activités illégales. Ça peut donner un motif raisonnable à la police de saisir ces montants-là s'il les voit sur une personne. Une confiscation ou une saisie, ça veut pas dire que la personne perd automatiquement l'argent qui lui a été confisqué. Comme on le voit dans la vidéo, la policière dit que l'argent va être compté et qu'ils vont donner à l'homme un reçu pour le montant qui a été saisi. L'homme reste propriétaire de l'argent, mais pour en reprendre possession, il va falloir qu'il passe par une procédure administrative qui pourrait passer devant un juge pour prouver que son argent n'est pas le résultat d'activités illégales. Oui, ce genre de procédure-là, c'est très controversé, et pour bonne raison. C'est pas illégal d'avoir des gros montants d'argent comptant sur sa personne, et il y a beaucoup de raisons légitimes de le faire. Présumer qu'un gros montant d'argent comptant soit nécessairement le résultat d'un crime, ça frôle un peu avec une violation de la présomption d'innocence. Ça peut mettre le fardeau sur le propriétaire légal de l'argent de passer à travers une procédure administrative qui peut être longue, compliquée et coûteuse pour reprendre possession de ce qui lui appartient. Vous avez été plusieurs à me signaler cette vidéo-là et c'est correct, mais je vous dirais, quand vous voyez quelque chose du genre, si vous avez des questions, signalez-les à vos élus aussi, parce que c'est leur responsabilité d'écrire les lois qui vont être appliquées et ensuite superviser leur application par la police.
Fait que là, ce qui dérange puis qui fait jaser, bien, un, il y a le principe d'avoir l'argent comptant sur soi en grande quantité, là, mais la fameuse loi 54 qui a été adaptée en mars dernier, 28 mars dernier, par l'Assemblée nationale, qui présume que tout montant comptant de 2 000 $ ou plus, c'est le résultat d'activités illégales. Donc, ça permet à la police de saisir ces montants-là automatiquement. L'argent reste tatoué. C'est juste que là, il faut que tu passes par des procédures judiciaires pour la récupérer, tu sais. Je sais pas si toi, ça te fait un pli. Tu sais, on entend Farnell dire que c'est très controversé comme méthode. On dirait que moi, ça me fait pas un pli pan à tout.
T'as-tu vu la liasse d'argent?
Dans ses mains à lui, tu veux dire?
Dans les mains du Hells Angels Gamache.
Ben non, mais oui, sauf que dans son cas à lui, je veux dire, il est surveillé, là, tu comprends? Il attendait juste une façon d'être capable de le soincer.
Ouais, mais t'as-tu vu la liasse d'argent?
Oui.
Tu sais, c'est une liasse qui est particulière.
J'aurais jamais ça dans mes poches, là, on s'entend. Là.
Ben moi, j'ai déjà eu 4000 pièces dans mes poches, mais c'était pour aller acheter une voiture, exemple, dans le temps. Puis il fallait aller sortir l'argent au guichet automatique, ou il fallait que tu passes à la caisse et tout ça, puis on payait cash. Mais tu sais, quand un individu est ciblé comme ça par les policiers, Martin Gamache, là, c'est pas un enfant de cœur. Si c'était toi qui avais le 4000 pièces, là,
puis j'étais capable de le justifier.
Tu dis, regardez, j'étais au guichet automatique, je m'en vais acheter une voiture avec ça. La policière t'aurait jamais fait suer
ben
avec ça.
Non. Puis c'est un peu, c'est drôle parce que justement, là, ça s'enflamme ces internets, mais cette fameuse loi 54-là, là, ça changera rien dans notre quotidien. Là. Si t'as rien à te reprocher dans la vie, là, à mon sens, t'as pas à trouver ça controversé. Là. Moi, ça me fait pas un pli, mais pas un pli.
Ah, il y en a qui vont dire que c'est encore un brin de liberté qu'on nous retire.
Oui, mais en même temps. Hey, écoute, je me suis fait arrêter pendant le Festival d'été de Québec sur un retour à 2 h du matin vers la maison. Je me retournais à Deschambault, OK? Je me suis fait arrêter parce que j'ai passé sa jaune, puis entre toi puis moi, j'étais vraiment fatiguée. J'avais pas bu, je venais d'aller porter du monde chez eux, j'avais fait les lifts cette soirée-là, puis là, je me retournais enfin à la maison. Mais la policière, quand elle m'a arrêtée, là, même si j'avais passé sa jaune, après m'avoir interrogée puis demandé mes permis puis mes papiers, là, quand j'ai dit que j'étais vraiment désolée, que j'étais brûlée, que je devrais pas conduire fatiguée, mais que là, je suis allée faire le taxi puis je retourne chez nous, bien, elle m'a dit, savez-vous quoi, madame, soyez prudente, s'il vous plaît, passez une super belle soirée. Quand t'as rien à te reprocher puis que t'es capable d'expliquer tes affaires puis que t'es relax, les policiers ont aucun avantage à te coincer pour te coincer, là.
Ouais. Puis le 4000 était où, hein?
Dans son cas, lui?
Ouais.
Mais là, il devait être très apparent, j'imagine. Là. C'est sûr, quand tu fais exprès aussi, puis t'es pas subtil. Là.
Quand est-ce que tu sors 4000 pièces d'en face d'une policière, toi?
Jamais. Je sors pas 4000 pièces dans le quotidien, parce que j'ai pas. Tu sais, c'est comme. Jamais tu sors ton argent pour sortir. Moi, ma mère m'a appris ça, hein, même dans ton portefeuille, là. T'es subtil quand tu sors ta monnaie, là. Tu fais pas exprès de sortir là, le gros paquet devant tout le monde, là.
Ouais. Non, mais c'est ça. Tu sais, est-ce que la policière dit, puis elle dit une personne raisonnable n'a pas ça dans ses poches. Regarde, ça, c'est ce qu'on lui permet de dire. Mais en réalité, elle cherchait un moyen de faire suer l'individu qui était en train d'y montrer son 4000 pièces. J'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qui se passait avant. Tu sais, qu'est-ce que Gamache lui a dit?
Ça, c'est l'autre affaire. On n'a pas de contexte, comme d'habitude. On n'a pas de contexte à cette vidéo-là qui se promène sur les internets.
Mais je répète, la Audrey qui s'en va au guichet automatique, qui s'en va à la caisse des jardins, qui sort 4 000 $ puis qui s'en va chez quelqu'un pour acheter une voiture ne se fera jamais achaler par aucun policier.
Là, l'autre affaire, il y a du monde qui ont peur qu'on n'ait plus le droit de traîner de l'argent en cash. Un, il n'y a plus grand monde qui traîne de l'argent en cash, point, là. Puis deux, je veux dire, il n'y a pas...
À part mes enfants, parce que quand je leur donne ma carte, ils dépassent tout le temps la limite.
Tu leur donnes un petit 20 $, genre?
Quand je leur dis c'est 5 $ maximum au dépanneur, ça, finalement, ils n'ont jamais calculé la taxe.
Bien, tu vois, on reçoit des textos ici. Moi, j'en connais beaucoup de gens, puis de monsieur puis de madame qui traînent beaucoup d'argent comme ça, cash avec eux autres.
J'ai pas de problème avec ça, moi.
Moi non plus, ça me stresse pas.
J'ai pas de problème avec ça. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est quand un Hells Angels est à côté d'une policière, puis il monte... Son 4 000 $ en
dessous
du nez.
Tu t'attends à quoi, c'est ça?
Tu t'attends à quoi?
Je pense que juste été surpris parce qu'il était peut-être pas au courant de la nouvelle loi qui venait de passer.
C'est ça. Tu sais, si t'as une conduite particulière, mais que le policier, il est pas sûr que t'es sous, il va attendre que tu fasses ton stop à l'américaine pour t'arrêter.
C'est ça. Il faut une raison de t'arrêter.
Ça y prend une raison.
C'est ça, fait qu'il va en créer une à quelque part. Là. Il y a un texto qui rentre. J'ai vendu une auto usagée, le gars m'a donné 4 000 $ et le reste en virement Interac, donc j'ai été illégal. Non. Le point, c'est pas d'avoir de l'argent cash sur toi, t'es pas illégal. C'est juste que cette fameuse loi-là, la loi 54, ça donne le droit finalement à la police de saisir le montant si elle a un doute sur ta personne. Fait que tu peux te promener avec 10 000 $ cash si tu veux, ce que je te conseille fortement pas. Mais c'est pas le fait que c'est légal ou pas légal, c'est vraiment juste le droit des policiers face à une future arrestation. Là. C'est le seul changement depuis mars dernier.
Voilà, messieurs, mesdames. 11h11, on s'en va aux nouvelles avec Max.
L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
On n'a vraiment pas bugué sur la même affaire depuis moi. Denis qui a publié les photos de ses petits gars.
Ben oui, ils sont à l'école.
Puis il m'envoie les photos de sa maison qui s'est fait détruire quand il s'était fait inonder.
Ah, c'est épouvantable,
quand il restait à Sainte-Brigitte-de-Laval. Ouais. Je veux dire, de voir ta maison se faire détruire, dans laquelle tu pensais vivre là encore des années et des années.
Ah, c'est vraiment décourageant, là.
Ouais. J'avais cette réflexion-là l'autre jour. Tu sais, quand j'étais jeune, il y avait des amis qui disaient « Ben ça, c'est la maison familiale. » Puis encore aujourd'hui, les parents habitent dans cette maison familiale-là. Puis quand ils vont là, comme le dimanche, ben ils disent « Ben nous autres, quand on était jeunes, on tournait autour de la maison. » Voici. Les... Mais de plus en plus, les gens changent de maison 3-4 fois.
Ben oui.
Fait que la maison familiale existe plus tant.
Non, moi, j'ai jamais eu une maison familiale.
Parce qu'il changeait de place.
Ben moi, avec la job que mon père faisait, à peu près un an et demi, là, on déménageait. Tu sais, quand j'étais jeune, on a déménagé facilement 12-13 fois.
Ouais.
Jusqu'à ce que je parte de la maison. Fait qu'imagine, tu sais, pas... Puis ça, c'est au-delà de la maison, là. Ça veut dire ton entourage, tes amis d'enfance, t'en as pas vraiment. T'as pas le temps de te créer des liens d'attachement à l'endroit. Capacité d'adaptation hors pair. Mais non, c'est ça. Nous, on a déménagé beaucoup. Puis effectivement, qu'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de même aussi. Moi, c'est comme un petit rêve par le fait que je ne l'ai pas eu, d'avoir une maison dans laquelle je vais rester jusqu'à la fin de mes jours.
Oui, mais c'est ça. Nous autres, on n'a pas, cette opportunité-là. Ce qui fait en sorte qu'une fois de temps en temps, quand je me promène à moto, je vais voir les parcs où je me tenais quand j'étais jeune. Je vais voir mon ancienne école primaire où je jouais au billet. Ben oui.
Moi, tu vois, c'est...
On compense, là.
Mais moi, ça a manqué, ça. Le seul endroit où j'ai des souvenirs... Je te dirais qu'il y a deux places dans la vie où je reviens, puis il y a des souvenirs qui me reviennent. Le Vieux-Québec, parce que c'est une place où on venait beaucoup quand j'étais jeune, puis bon, maintenant, je suis plus dans le coin. Mais au-delà de ça, il y a aussi le Saguenay, parce que j'ai été 4 ans là-bas, puis je me suis créé un entourage là-bas, je me suis créé des connexions, des souvenirs. Mais mis à part ça, là, moi, mes souvenirs d'enfance sont tout mélangés, mettons. Là. Mm-hmm. J'ai pas de place où je retourne, là, comme toi. Là.
Non, pas tout.
Zéro bonne barre.
C'est fait que là, la résidence que j'ai achetée en Beauce avec la mère de mes enfants, là, on a réussi à ce qu'elle puisse la garder.
Ce qui fait que ça va devenir le pied-à-terre de tes gars.
Ça va devenir le pied-à-terre de mes gars.
Mais ça, c'est le fun. C'est nécessaire, je trouve.
Ben
il y a
oui.
Quoi de cette nostalgie-là que ça te ramène, je trouve ça vraiment beau.
Tu sais, c'était mon rêve à moi. Ouais. Tu comprends? Ça a commencé par mon rêve à moi que j'ai vendu à la mère de mes gars qui me disait « Non, moi, je reste dans la ville la plus grande de la planète, c'est-à-dire Lévis. Je ne veux pas aller à Québec. » Finalement, je l'ai amené à Québec. Après ça, j'ai dit « Moi, mon rêve, c'est de vivre en campagne sur le bord d'un lac. » Puis c'est ce qui est arrivé. On a réussi à acheter une maison en campagne sur le bord d'un lac qui est un chalet qui a été reconverti en maison. Puis là, ben, mes enfants ont grandi là, là. Fait que j'espère que cette maison-là va être là à elle pendant des décennies et des décennies. Là,
mais t'en rachèterais-tu si demain matin elle décide qu'elle déménage?
On en avait déjà parlé. Là, ouais. Quand on s'est séparés, moi, c'était clair que je voulais que mes enfants restent là parce que c'est comme un jardin d'enfants tout autour du lac. C'est tous des enfants de leur âge. Puis c'était impensable pour moi de les sortir de là puis de dire « Allez vivre avec votre mère, mettons, à Québec. » J'aurais jamais été capable de faire ça. Fait que mes enfants vivent là, ils vont s'en rendre compte plus tard à quel point c'était le fun de leur enfance. Là. Ben oui.
Mais oui.
Mais oui, c'était déjà dans les discussions. T'sais, le jour où elle voudra vendre plus tard, ben elle pourra me l'offrir.
Tu sais, tu vois, moi, la tâche...
Faut qu'elle arrête de mettre de l'argent dessus, parce qu'à un moment donné, j'aurais plus moyen.
C'est ça, tu seras plus capable de la racheter. Mais le seul attachement que j'ai vraiment là, de maison, c'est celle de mes grands-parents sur la Côte-Nord. T'sais, c'est une terre qui est là depuis que le monde est monde. Mon arrière-grand-père habitait là aussi. Ma mère a été élevée là. Mais mes grands-parents sont là en ce moment, puis... C'est la place où on se rejoint quand on est allé à quelque part, c'est à Pentecôte, au village. Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup de souvenirs qui sont associés, mais je trouve ça important. Puis moi, j'ai peur que ça se perde avec le temps.
Hey, Louis Gab nous écrit, dit « Salut, ma famille possède la même terre agricole depuis plus de 300 ans.
Hey, » C'est débile!
Un vrai bonheur de pouvoir faire découvrir ce patrimoine à mes enfants.
C'est précieux en motadine.
Faut pas que ça se perde.
Mais non, puis moi, quand j'étais jeune, ce qui me faisait triper, puis Louis Gabriel, j'imagine que vous pouvez faire ça aussi de génération en génération, mais quand, mettons, la maison de mon arrière-grand-père a été détruite sur la terre, et puis il restait juste celle de mes grands-parents. Ben, on a toutes les vidéos de ça, vieilles vidéos, là, pas claires. Là. Mais tu sais, là, tu regardes ça, puis tu es capable de voir comment c'était fait avant, la petite ferme, puis ci, puis ça. Tu es capable de visuellement comprendre les histoires qu'on te raconte, que tes parents te racontent, que tes grands-parents te racontent aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de tellement précieux là-dedans. Là.
Vraiment.
Mais c'est dur aujourd'hui.
Écoute, moi, j'ai rencontré un gars qui a refusé de reprendre la terre familiale de ses parents. Son père avait obtenu cette terre-là de son père, et son père l'avait obtenue de son père, et son père l'avait obtenue de son père. Fait que c'était quatre générations. Lui a dit « Non, papa, ça m'intéresse pas. C'est pas mon futur. Moi, je veux aller vivre à Montréal. Je veux travailler dans tel domaine. » Il était comptable. Puis il réussit bien aujourd'hui à son bureau de comptable à Montréal. Mais quand je l'avais recroisé quelques années plus tard, tu comprends qu'avec son père, je pense qu'il devenait alcoolique pendant un an, là, tellement qu'il trouvait ça dur de devoir vendre cette terre-là. Puis ne pas la céder à son enfant.
Y a-tu un regret?
Fait qu'il a bu, comme si il n'y avait pas de lendemain pendant un an. Puis après ça, ben, il a recommencé à vivre sa vie avec sa femme dans son condo parce qu'ils se sont achetés un condo. Ils ont vendu la terre, après ça, ils se sont achetés un condo, puis ils se sont achetés un chalet au Sambos. Mais lui, quand je l'ai revu quelques années plus tard, il dit mon plus grand regret, ça va être ça. Ça va être de ne pas avoir repris la terre de mes parents.
Tabarnouche.
C'est fou, hein?
J'aurais pas pu avoir cette conscience-là un peu plus tôt.
Mais quand t'es jeune, moi, mais attends un peu, là. Le rêve de tes parents n'a pas à être ton rêve à
ça,
toi.
Je suis entièrement
Sauf
d'accord.
Sauf que quand tu vieillis, tu comprends des affaires que tu comprenais pas.
Mais moi, j'aurais peur de regretter, fait que je l'achèterais que t'as à vendre plus tard.
Tantôt,
là.
On jasait tantôt. Là, avoir mis tout l'argent qu'on a gagné dans la restauration, là, qui nous payait pratiquement pour rien,
oui.
Tu sais, avoir mis ça de côté, on serait riche, toi puis moi.
Oui. On aurait pu faire ce genre d'investissement-là.
Ouais. Je me suis fait offrir des bitcoins à 1$. Puis j'ai dit, ça marchera jamais. Puis j'avais l'argent, là!
Aujourd'hui, tu regrettes.
Ben oui, mais c'est quand tu vieillis, puis avec le temps, tu te rends compte des opportunités que tu avais, puis des erreurs que tu as faites. L'important, c'est d'apprendre de tout ça, mais tu sais, lui, il est comptable, puis il a sa grosse business, tu sais, il est multimillionnaire, il pourrait arrêter de travailler demain matin. Mais son plus grand regret, c'est de ne pas avoir accepté la terre de son père.
Mais c'est l'histoire aussi de ta famille qui est là. Tu sais, je trouve ça tellement précieux. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie puis que j'aurais aimé avoir. Puis le pire, peut-être que si je l'avais eu, j'aurais pas profité de ça non plus. Tu peux pas savoir. Là. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, qu'ils disent. Là. Mais non, moi, j'aurais vraiment aimé ça. Puis tu sais, je regarde, mettons... bon, là, toi, t'as cété une maison en Beauce pour tes gars, tu sais, pour plus tard. Mais j'ai l'impression qu'avec le quotidien d'aujourd'hui, c'est moins facile de citer un endroit où tu restes toute ta vie.
Moi, c'est des logements. Je me souviens des logements où on habitait.
C'est capoté.
Je me promène à Saint-Sauveur. Ah, j'ai déjà habité là. Saint-Roch. Ah, j'ai déjà habité là. À Beauport. Ah, j'ai déjà habité tel logement.
C'est débile, hein?
Ah.
Non, c'est pas nécessairement toujours des super souvenirs.
On croirait qu'on est en fin de vie.
C'est vrai, on est là pour on radote et pourtant on est loin d'avoir terminé.
Oui, hey, je ne sais pas si tu as vu l'article de cet entrepreneur-là. Je dis jeune entrepreneur parce qu'il a l'air encore jeune, Tommy Bouillon. Il doit être à peu près dans la quarantaine, Tommy. Puis il dit, lui, qu'il faut cesser d'arrêter de décourager les jeunes à aller dans les métiers de la construction.
Hey, j'ai vu ça passer vite, vite. J'ai pas trouvé ça con.
Je trouve ça tellement pertinent comme dossier parce que c'est pas vrai que tout le monde naît puis aspire à devenir chirurgien cardiaque. Tu sais, il y en a qui trippent à faire des métiers artistiques, il y en a qui trippent à faire des métiers manuels, puis il y en a d'autres qui trippent à faire des métiers, je sais pas, de bureau ou de comptabilité. Tu sais, c'est chacun son trip. Mais c'est vrai que la construction. Quand j'entends parler de jeunes qui veulent s'en aller dans la construction, très souvent, les gens autour de moi tendent à les décourager en disant « Hey, construction, c'est dur. Construction, c'est pas évident. »
Il y a un stéréotype aussi
tu vas travailler à l'extérieur. Tu vas travailler à l'extérieur. Ouais. « Ah, c'est quoi? Tu veux pas faire des grosses études?
Ouais. »
Toutes les gens autour essaient de décourager ces jeunes-là qui tripent sur la construction. Mais je peux-tu te dire quelque chose? Moi, avoir eu un père qui m'aurait montré à bâtir ma maison, j'aurais tellement été heureux de ça. T'as pas idée. J'ai déjà pensé à faire mon cours de charpentier-menuisier parce que je trouvais que j'étais très malhabile comme individu. Il n'y a pas personne qui m'avait assisté pour me montrer comment faire pour faire un cabanon et tout ça. Fait que j'y avais déjà pensé. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que, écoute, tu peux faire beaucoup d'argent dans la construction quand tu es vraiment bon, quand tu veux te lancer comme entrepreneur.
Mais je ne pensais pas qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre dans la construction. J'avais l'impression que ce n'était pas un des milieux qui était touché, au contraire.
Ouais. Ben, tu sais, les gens s'en sont plus aperçus quand on s'est aperçu qu'on te payait pour aller à l'école, là, pour apprendre un métier de la construction. Fait que là, tu t'es dit, et tabarouette pour que le gouvernement soit rendu. Il y a 43 ans.
700 par semaine, je pense.
Ouais, 700 piastres par semaine. Là, tu te dis, OK, pour qu'il fasse ça, c'est parce qu'il manque vraiment du monde dans la construction. Puis il y en a énormément qui ont décidé d'embarquer dans ces cours-là qui n'avaient aucun intérêt, puis que finalement, c'était juste pour la paye de 700-750 piastres. Mais il y en a d'autres qui vont réussir à faire leur cours puis pratiquer ce beau métier-là. Mais tu peux devenir millionnaire là, en étant entrepreneur en construction. Lui, il est en maçonnerie, puis ça va très bien. Le problème, c'est d'essayer de recruter des jeunes.
Oui, puis des jeunes qui sont sérieux parce qu'il y en a qui vont juste faire ça un bout le temps de se spécialiser dans d'autres choses. Il y en a qui prennent pas la job en tant que telle au sérieux. On a eu beaucoup des histoires de construction aussi, là, où certaines entreprises, où certaines personnes faisaient mal les jobs. C'est dur, en fait, de trouver des gens qui sont bons, qui veulent être bons puis qui veulent se spécialiser. J'ai l'impression que c'est plus ça. Parce que moi, j'ai connu beaucoup de monde, là, quand j'étais du côté de Montréal, beaucoup de mes amis de gars sont allés en construction, voulaient travailler en construction. Mais il y avait une partie, je te dirais, de ce que je voyais qui était ils se pognaient le beigne aussi. Là. C'était le fun. Les gars de la construction, c'était le fun. Ça se faisait des parties la fin de semaine. Il y avait vraiment une aura puis comment t'appelles ça, un stéréotype là, autour de cette job-là. Là.
Salut! Manœuvre sur l'asphalte en pension à Québec. 1600 par semaine. J'ai pas d'études. Fred qui dit « Allô, c'est justement la situation, nous sommes trois enfants, puis c'était pas ça. » Ah, c'est ça, c'est l'autre dossier qu'on jasait tantôt. Mais il y a moyen de retourner en construction, les amis. Si c'est le regret de votre vie, allez-y. Il y a beaucoup d'argent à faire là.
Ah, mais au-delà de la construction, ça, je pense que c'est pour n'importe quel corps de métier. Là. Je veux dire, t'es pas bien dans ce que tu fais, il est pas trop tard. Là. On n'est plus en 1960, t'es pas obligé de passer ta vie dans un métier qui te fait chier.
Le problème, tant pour les gars que pour les filles, c'est que c'est un métier extrêmement difficile sur le body.
Ben oui, ça oui.
Fait qu'à 55 ans, faut que tu t'assures d'être capable de lever encore ce que tu avais à lever. Là.
Non, ça c'était... Moi, mon beau-père avait une compagnie de construction, puis tu vois, il y a un moment où il n'a pas eu le choix de tirer la plug parce que physiquement, ça ne suivait plus. C'était vraiment difficile sur le corps, sur le mental aussi, par le fait même. Mais dans l'article, Tommy Bouillon le dit, là, il donne l'exemple d'un jeune qui prend ça au sérieux, mettons, là, puis qu'à l'âge de 18 ans, il accumule de l'argent, qui investit 250 par semaine, 10% d'intérêt jusqu'à 30 ans. C'est 300 000 piastres que tu viens d'accumuler assez rapidement. Là. Fait que oui, c'est effectivement un milieu qui est très, très bien payé. Je pensais pas qu'on manquait de monde, par exemple.
On manque énormément de gens. Hey, Audrey?
Oui?
Je te dis à demain.
C'est vrai, ça passe toujours trop vite.
On t'écoute dans le retour tantôt.
Absolument.
Puis CV s'amène dans le show dans les prochaines minutes.
Bon midi.
Bye-bye. Boulevard. Le...